Le 1er décembre, c'était le lendemain d'un ZAP qui a eu lieu à l'Élysée, fait par Act Up Paris. Et pour le 1er décembre, M. Chirac a décidé de mettre 8 militants d'Act Up Paris en garde à vue pour nous remercier de lutter contre le sida. Alors Richard est là pour nous parler de cette garde à vue et que nous pourrions considérer comme une prise d'otage finalement. N'est-ce pas Richard ?
Tu dois avoir un avis sur la question ?
Oui, je pense que tu peux avoir un avis sur la question. Tu vas nous en parler. Alors comment s'est passé le ZAP ?
Alors, le ZAP était très très bien organisé.
Mais ça ne m'étonne pas du tout.
Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que comme c'était une cible très importante, ça s'est organisé de façon très 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 secrète.
Oui.
Donc il y a eu toute une coordination avec les médias, c'était un autre point de rendez-vous avec les militants, où on se croisait et tout, les uns par rapport aux autres, par rapport à la cible, pour qu'on soit tous réunis au moment M qui était 9h58. Donc à 9h58, Antonin, qui est l'autre vice-président d'Acte Paris, et moi...
Oui, puisque arrivé. Richard est notre vice-président.
Hein. Oui, un temps. Et alors, donc on est arrivé avec les médias, et donc à 9h58, tous les gens qui se croisaient de part et d'autre de cette rue se sont réunis, et tout à fait, tout d'un coup, on fait « Le sida, c'est la guerre! Chirac méprise les malades du sida !» Et alors là, il y avait un seul vigile, je continue à raconter.
Bien sûr, un seul vigile.
De quel côté de l'Élysée vous étiez rue
du Faubourg Saint-Honoré, parce que je pense que de l'autre côté, le côté jardin, c'est pas très intéressant.
Donc il y avait un seul vigile, là, les portes étaient fermées, et donc il était un peu désarmé, parce que... On nous a tout de suite identifiés, il n'y a pas eu de problème. Donc on a pu jeter du faux sang sur les murs pour signaler que oui, il a du sang sur les mains, etc. Enfin, tout ce qu'on dit habituellement, et donc ça, c'est pas nouveau. Tu veux peut-être le rappeler aux...
Oui, nous précisons quand même que le faux sang envoyé par Act Up n'est pas du tout quelque chose qui abîme les murs.
Ça part au lavage, en quelque sorte.
Ça part au lavage, c'est tout simplement quelque chose de très naturel,
Ce n'est pas naturel, parce qu'on n'aime pas ce mot. C'est une recette secrète à base de colorants alimentaires.
Voilà, c'est une recette secrète, mais c'est du colorant alimentaire.
Oui.
Et pourquoi du faux sang ? Pourquoi pas du faux autre chose ? Parce qu'il y a plein de choses fausses dans la vie qu'on peut utiliser pour ce genre d'événement.
Quelle question sympathique. Alors, c'est lié un peu à l'histoire d'Act Up et une façon de montrer les choses un peu, comment dire, de façon très très subtile. Mm-hmm. Voilà, de ce qu'on dit, les gens ont du sang sur les mains, c'est un assassin, donc c'est un raccourci.
D'accord.
Et puis c'est aussi lié historiquement à l'histoire du sang contaminé.
Bien sûr. Donc c'est une métaphore très évidente qu'Act Up utilise ainsi.
Voilà. D'accord. Donc on était 8 avec plein de médias. Il y a plein de médias. Donc on a lancé le faux sang, on a lancé des slogans, etc. On s'est allongé, ça a duré quelques minutes. Et on a fini par s'allonger, puisque globalement, on ne voulait pas nous laisser là. Donc, on s'est allongé. Donc, c'est un daïn, on symbolisait. En plus de se servir de sa serre pour rester plus longtemps sur place, etc.,
oui.
On symbolise aussi les malades, les morts.
Les malades, les morts du sida.
Voilà. Donc, ça a un double intérêt, qui est donc de faire de l'action publique, globalement, sur un sujet bien précis.
D'accord.
Et donc, on s'est resté allongé, et au bout d'un moment, on a été embarqué dans la rue de Duras. C'est très sympa, cette petite rue. Donc là, on a un peu dégagé de l'entrée.
Oui. Ce qui paraît normal en même temps.
Donc en soulevant les gens, etc.
On ne connaît pas beaucoup de gens qui s'allongent devant l'Élysée comme ça, finalement. Vous avez réussi à le faire.
Oui, par ailleurs, oui, c'est une première. Enfin, peut-être en mai 68, mais on est trop jeunes. On ne peut pas.
Puis c'était au siècle dernier, donc il fallait le refaire.
Ouais. Non, sérieusement, c'est une première dans l'histoire militante de s'attaquer comme ça au mur. Sur le chef de l'État, et puis dans l'histoire du sida, c'est clair, dans l'histoire militante, je pense aussi. Peut-être qu'il y avait des choses au niveau de mai 68, mais je ne sais pas, et ça n'est pas resté dans l'histoire non plus. Donc on est arrivé, on a rangé le camion dans la cour du poste de police, on a attendu un certain temps.
Dans le camion.
Ah. Et au bout d'un moment, donc des gens civils, des jeunes garçons, qui par ailleurs étaient plutôt mignons, et qui plaisaient à certaines personnes d'entre nous, sont arrivés en disant que bon, là, on vous met en garde à vue, on vous le notifie. Donc là, tout de suite, on est un tout petit peu plus paniqué.
Oui.
Alors, manifestement, Antonin a appelé avec son portable, en étant très, très subtil et caché, le local pour avertir de ça. Mm-hmm. Donc, vous étiez averti très vite.
Pour nos auditeurs, il est quelle heure ce 30 novembre?
Il est aux environs de 11h, 11h15 environ.
D'accord.
Un peu avant midi, oui.
Oui, aux environs de 11h15. Voilà, donc, on a été notifié. notre notification était dans le camion. Hein, chacune des personnes s'est vue, quelqu'un lui apporter la notification, signer les papiers. On nous demandait si on voulait voir un médecin, si on voulait voir un avocat. Mmh. Ce genre de choses. Oui, c'est ça, c'est le genre de choses. Donc, la plupart des personnes ont dit oui.
Est-ce qu'ils ont demandé à certains des militants s'ils étaient malades? Parce qu'il y avait quand même des malades parmi les militants.
Dans le camion, je ne pense pas.
D'accord.
Enfin, ils ont demandé s'ils voulaient voir un médecin. Et donc,
oui, d'accord.
Mais pas... Après, donc, on a été emmenés un par une par un, dans le poste de police. Mmh. Et alors là, manifestement, c'était un peu long. Donc, j'étais genre l'avant-dernière avec Eve et voilà, tout comme ça. Donc, c'était un peu long parce qu'en fait, ce qu'on ne savait pas, c'est que manifestement, on dépiautait tout ce qu'on avait sur nous. Hein. Et donc, la moindre carte était notée dans le grand livre de tout ce qu'on a consigné. Et donc, c'était très long parce que, comme ils nous l'ont précisé, mais quand vous allez à une action publique, emportez votre carte d'identité et c'est tout. Ça durait donc très, très longtemps, genre une demi-heure au moins pour chaque personne. Je ne vous parle pas pour moi, c'était très long, avec plein de remarques tellement sympathiques qui m'ont signé au fait que j'étais une fille et tout ça. Donc, j'en parle même pas pour les PD, c'est trop sympa.
Surtout qu'on aime toujours avoir plein d'accessoires sur soi, donc ça paraît très compliqué de sortir...
Pas seulement des cartes, des carnets d'adresses, des boîtes à maquillage, choses comme ça.
Non, mais
vous
voyez, par exemple, j'avais un préservatif dans mon sac.
Et, bien sûr,
donc
comme
on a fait
tout
un discours sur... Oui, parce que vraiment, bon, j'avais pas de gel parce que bon... Donc, on m'a fait tout un petit sketch comme quoi, ah ah, très important, oui, vraiment, faut jamais oublier, donc des trucs tellement sympas. Et puis, voilà, donc après, est arrivé le moment où on a dû genre un peu se déshabiller. Je précise ça parce qu'il y avait une personne parmi nous qui était trans,
oui.
Et donc il y a eu des difficultés pour elle, mais je reviens juste après.
Oui.
Donc, on a été par une fille qui manifestement par ailleurs était lesbienne, puisqu'on jouait beaucoup avec le fait qu'elle était lesbienne au sein du commissariat.
Donc, les autres policiers jouaient avec le fait qu'elle était lesbienne.
Oui, manifestement, elle assumait parfaitement le fait qu'elle était lesbienne.
D'accord.
Très butch, mais très sexiste par ailleurs. Sexiste, hein, pas sexy.
On avait compris. Donc, voilà. Vu son costume, c'était pas possible.
Il a fallu donc se déshabiller. On nous a pris nos chaussettes, nos collants, nos soutiens-gorge qu'on en avait. Je parle pour les trois filles, hein, qui avaient. Oui. On était trois. Donc voilà. Donc on avait plus. Enfin, on avait un peu froid. J'ai gardé mon manteau et donc on était en cellule. Donc,
les filles d'un côté,
les
garçons de l'autre.
D'un côté, les quatre garçons, les cinq garçons biologiques donc, de l'autre côté,
oui.
Les filles biologiques d'un côté. Et donc, il y avait donc.
Un garçon non biologique.
C'est
comme ça qu'on dit ?
Oui. Un trans.
D'accord.
Un trans qui, donc, manifestement, on ne savait pas trop quoi en faire. Et ils ont fini par dire qu'ils allaient être mis de côté. Donc, il a été mis tout seul dans une cellule. Par ailleurs, il y avait des trucs, oui. Quand on arrivait, ils savaient qu'il y avait des personnes qui étaient malades. Alors, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, le fait qu'ils le savaient. Et ils ont appelé, donc, parce que certains ont dû dire qu'ils avaient un traitement, qu'ils étaient malades, séropos, tout ça. Il y en avait deux, par ailleurs, qui avaient besoin de traitement.
Oui.
Et donc, la personne qui a appelé le camion de transport, enfin le véhicule de transport, a dit qu'il y avait des sidaïques à transporter.
Des sidaïques.
Tellement sympa. Alors après, donc nous, les filles, on était trois dans une cellule. Voilà. Et oui, il n'y a pas eu de...
Rien.
Non. C'est désolant.
Et donc là commence une attente
très longue.
Infinie.
Oui, mais l'attente est donc différente suivant les cellules. Parce que donc, la cellule des filles, donc, on est trois. Globalement, on était plutôt privilégiés par rapport aux garçons qui étaient donc cinq dans leur cellule.
Oui.
Et à un moment donné, ils ont eu deux personnes extérieures au groupe qui les ont rejoints.
Là, quelle heure il était? Parce que ça, c'était la fin d'après-midi quand même, à ce moment-là.
C'était vers 13h.
D'accord. C'était vers 13h. C'était quand même le début d'après-midi.
Pas que tout le monde a pu être emprisonné, on va dire. Mm-hmm. C'est-à-dire les deux derniers.
C'est-à-dire fouiller, analyser, répertorier et puis ensuite enfermé. Enfin, je veux dire, on analysait tous les objets.
On demandait les cartes d'identité. D'accord. On faisait le point sur les objets qu'ils avaient avec eux.
Voilà.
On les fouillait légèrement. Mm-hmm. Enfin, c'est pas des fouilles non plus à corps où on est déshabillé totalement et on prend des gants et on vous parle. Enfin, c'est pas non plus.
Mais la garde à vue en elle-même, la garde à vue, c'est comme au cinéma ou c'est pas comme au cinéma? Est-ce que vous restez dans la cellule ou est-ce qu'on vous interroge?
Et puis, est-ce qu'il y a des barreaux? Est-ce que les coins sont sales? Est-ce que...
Voilà, d'abord, je réponds à la première. Oui, il y a un interrogatoire, mais globalement, la seule chose qui s'est plutôt bien passée dans cette garde à vue, qui a donc duré 24 heures.
Oui.
Parce qu'elle aurait pu durer, elle aurait pu être reconduite, hein, mais elle n'a pas été, ce qui est déjà bien. C'est que, manifestement, D'habitude, donc où il y a des interrogatoires, que ce soit en contrôle d'identité ou pas, il y en a. Mmh. Et donc là, on a tous dit, parce que c'est ce qu'on dit habituellement, parce que c'est plus simple, etc., qu'on n'a rien à déclarer, oui. à part l'identité qu'on est obligé de donner. Et là, d'habitude, on nous harcèle, on nous pose des questions, on nous dit qu'on est idiote, que ça suffit, etc. Mais là, juste pas du tout.
On vous a carrément laissé tranquille, en gros.
On nous a mis ça, bon, on a un tout petit peu dit que c'était un peu bête, mais oui. juste une fois, et c'est tout. Et c'est pareil pour tout le monde, il n'y a personne
qui a Donc il n'y a pas eu de questions, pourquoi vous faisiez ça,
de tracasserie, quoi. Non, c'était très très rapide. Et je voudrais juste donc rajouter quand même qu'il y avait des trucs quand même super pénibles. D'abord le fait qu'on était privé de liberté. Mmh. Enfin, privé de liberté, ça veut dire évidemment qu'on est coincé dans une cellule, mais par exemple, on dormait par terre. Il faisait froid.
Et vous n'aviez pas de couverture, je crois.
On avait une couverture, c'était pour le sol. Et puis après, enfin, on était quand même trois et ils étaient cinq, donc c'était une couverture. Enfin, on ne pouvait pas vraiment dormir. La lumière était tout le temps allumée. Il y avait énormément de bruit. C'était super sale. Et puis, il y avait aussi les personnes donc, qui étaient malades, enfin, séropositives et qui avaient besoin de traitement. Et donc, c'était un peu hard. Ça nous a fait très, très peur parce que il y a la régularité des prises de traitement est très importante.
Oui, absolument.
Et quand même, ça nous a fait super peur parce que... Enfin,
on leur avait enlevé leurs médicaments, c'est
oui,
bien
oui,
ça.
Oui, et donc il fallait toujours passer par le... Enfin, ils ont été emmenés à l'hôpital. Et puis les personnes qui savaient donc séropositives qui ont été emmenées à l'hôpital ont été menottées. Mmh. Alors que... Enfin, comment dire, il y a des règles qui sont fixées sur comment la police doit agir. Mais après, tout dépend de l'individu. Enfin, c'est que des trucs qu'on nous dit, oui, c'est les règles, mais après, c'est suivant les personnes, c'est pas les mêmes règles, etc. Donc, c'est un peu facile de se réfugier derrière. Et il n'y avait pas d'obligation formelle à ce qu'ils soient menottés pour être amenés à l'hôpital, mais ils l'ont...
Mais il n'y avait pas d'interdiction non plus. Ils étaient en droit de le faire.
Oui, ils étaient en droit de le faire, mais il n'y a pas une obligation à le faire.
D'accord.
Et donc, pourtant, ils l'ont fait. Donc ça, c'était super pénible. Et puis, manifestement, pour une des deux personnes, Jean-François, ça a été assez pénible à l'hôpital avec le médecin qui l'a reçu, qui confondait ce que c'est séropositif et CD1, qui ne connaissait pas son traitement, etc. Donc, c'était super pénible. Et donc, au moment des prises de traitement, il y avait quand même des trucs... on a eu super peur parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. Enfin, taper, ça servait... Enfin, on a tapé sur des murs, mais ça ne servait pas à grand-chose. Donc, ça fait super peur, surtout vers la prise de 2h du matin de Stéphane. Ou à 1h30, donc on a commencé, parce qu'il y avait eu un changement de gardien et gardienne, et donc ils disaient que non, il fallait qu'ils aient l'autorisation et tout, alors qu'ils avaient l'autorisation écrite dans le dossier. Donc c'était super pénible. Donc finalement, il y a eu les prises, mais en sachant que pour donc, la prise du matin, du petit déjeuner équivalent, il y a quand même eu des... Enfin, c'est pas catastrophique en soi, mais quand même, normalement, il doit y avoir une prise alimentaire de 1500 calories ou 500 calories, je sais plus exactement. Et c'était pas le cas.
D'accord.
Donc voilà, donc il y avait des trucs pas top. Et ça a duré une fois, c'est pas la prison à vie. Donc c'était quand même très très pénible. Et c'est pas non, on n'est pas non plus dans le culte du héros et c'est pas le but non plus de passer 24 heures en prison.
Bien absolument. Sûr. Eh bien, merci beaucoup, Richa, pour ce témoignage.